Session sur la béatitude par le père Marie-Dominique Philippe, le 19 avril 1996, à Rimont, première conférence.
Alors, on va ensemble pendant 3 heures s'introduire à la béatitude. Alors, on pourrait faire des exercices pratiques. À mon avis, l'exercice pratique le plus parfait, ce serait de se mettre dans le silence, rester pendant quelques heures à la chapelle. Et puis là, on goûterait la béatitude et on reviendrait vite en disant « expliquez-nous ce que c'est ». Autrement dit, je crois qu'il est important de voir que une telle réflexion, il ne faut pas simplement la prendre sous sa dimension de rationalité, faut-il aussi la prendre comme une exigence vitale de l'agir humain. Vous voyez, on n'est pas simplement à regarder quelque chose de curieux, à connaître une réalité qui nous est extérieure, à contempler une réalité simple en elle-même, mais compliquée quant à nous, on est en train de regarder ce qui vient finaliser mon agir. Autrement dit, oui, il y a un côté existentiel à cette session qu'il ne faut pas mettre entre parenthèses. Et en même temps, il y a un réalisme à avoir, c'est que parler de la béatitude aujourd'hui, ça fait un peu vieillot. Parce que qui parle de béatitude? Autrement dit, je vous demanderai de me dire rapidement, mais pour vous, la béatitude, qu'est-ce que c'est? Prenons l'exemple d'un frère de Saint-Jean qui me répondrait. La béatitude, c'est quoi? C'est d'aimer, la finalité de l'amour d'amitié. Une telle réponse, je vous le rappelle, est condamnée par l'Église. Donc, vous voyez, on va essayer de comprendre pourquoi. Vous voyez, chose importante, c'est de voir que souvent, le mot béatitude a une conception. Soit c'est la béatitude, le patriarche de Constantinople, on l'appelle sa béatitude, ou votre béatitude. Soit on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière le mot béatitude. Et souvent, l'appellation béatitude signifie l'appellation bonheur. Et très souvent, on confond béatitude et bonheur, alors qu'il y a une différence essentielle. Et à partir du moment où on raconte... Du moins, à partir du moment où on fait correspondre les deux choses, on en arrive à une impasse qui, dans l'histoire de l'Église, a abouti à une hérésie. Alors, c'est quand même intéressant de se poser la question, parce que naturellement, on dirait notre béatitude, c'est l'amour d'amitié. Notre béatitude, c'est l'excellence des vertus. Ben, ça, c'est plutôt la béatitude des autres. Mais vous voyez, et je crois que c'est important de voir que quand on parle du mot béatitude, il y a une connotation très particulière. Et au point de vue philosophique, on ne parle pas du tout de béatitude. Alors, ça c'est en guise de provocation, principalement pour les frères, pour qu'ils ne s'ennuient pas, parce que ce que je vais dire, ils le savent déjà par cœur. Alors, je vais regarder plusieurs choses avec vous. Premièrement, dans une sorte d'introduction... J'ai essayé de vous faire saisir l'importance de cette question au point de vue théologique et son rapport à la philosophie. Vous allez voir, c'est un peu compliqué, mais ce n'est que l'introduction. Donc, en principe, ça ne dure pas longtemps. Alors, après, on va regarder ce que nous dit l'Écriture. Ce que nous dit l'Écriture sur la béatitude. Bien sûr, dans l'Écriture, on pense à Matthieu 5, le discours sur les béatitudes. Là, je regarderai l'ensemble des béatitudes. L'ensemble de l'Écriture par rapport aux béatitudes. Dans un troisième lieu, je regarderai un père de l'Église qui, à mon avis, est un modèle important. Ouais, j'en dirai quelques mots, c'est saint Augustin, parce que c'est sûrement celui qui, dans l'histoire de l'Église, avant un autre auteur qui s'appelle saint Thomas d'Aquin, a le plus développé la question de la béatitude. Et après, je regarderai le magistère, c'est-à-dire faire un rapide coup d'œil sur l'histoire de l'Église, selon le prisme du magistère, pour voir... Ou de temps en temps, on a dit des bêtises sur la béatitude, et vous verrez que très souvent, on dit les mêmes. Donc c'est bien d'être prévenu hein, de l'autorité magistérielle pour faire en sorte que notre foi soit un tout petit peu orthodoxe. Alors, l'importance de la question de la béatitude, c'est avant tout la découverte de la finalité. Et cette découverte de la finalité, il faut bien voir qu'aujourd'hui, elle est complètement mise entre parenthèses. Vous voyez, il est très rare d'entendre des gens qui pensent en termes de finalité. On pense souvent en termes d'efficacité. Autrement dit, Je juge d'une chose en tant qu'elle est efficace. Je juge d'une chose en tant qu'elle est capable de produire une autre chose. Ou je parle de la réalité aussi en forme de structure. Vous voyez, la complexité du réel. On garde souvent le réel sous la manière de sa structure. Ce qui est important, c'est d'essayer de se poser la question, mais est-ce que la finalité revêt quelque chose d'essentiel à ma propre expérience? Alors la finalité, hein, c'est quelque chose de très simple, c'est ce vers quoi je tends. Et en même temps, c'est ce qui me finalise. Et il est important pour chacun d'entre nous d'arriver à une certaine connaissance de notre fin. Vous voyez, bien souvent, on vit d'une façon purement empirique. Autrement dit, on ne cherche pas trop à savoir ce qui vient, ce vers quoi on va. On cherche simplement à accomplir l'immédiat. Il est clair que l'homme est orienté d'une façon nécessaire vers la recherche de sa finalité. Et ça, s'il ne l'est pas d'une façon lucide, faut-il éveiller le sens de la fin, le sens de la finalité. Et de temps en temps, quand vous vous déplacez, puis tout d'un coup, vous arrêtez dans le courant, vous dites, mais où est-ce que je vais? Et dans ce mouvement local qu'est la marche, il n'y a plus de finalité. Parce que la finalité de la marche, c'est d'aller d'un lieu à un autre. Alors pour la marche, ça va, mais souvent, il y a des quantités de lieux dans lesquels on ne sait plus du tout très bien où on va. Vous voyez, au point de vue humain, l'intérêt de cette question, c'est découvrir, laisser émerger en nous ce vers quoi nous allons. Et très souvent, la fin n'est pas présente à ce que nous faisons. Alors, ça, vous verrez ça avec le Père Philippe, hein, quand il traitera de Saint Thomas. Mais c'est toute la question d'un acte humain. Qu'est-ce que c'est qu'un acte humain? Un acte humain, c'est un acte qui est automatiquement finalisé. S'il n'y a pas de finalité dans un acte humain, il n'y a pas d'acte humain. Il ne s'agit pas de faire quelque chose, faut-il le faire en vue d'une fin. Alors, ça c'est le premier intérêt, la découverte de la fin. Vous verrez ça dans le traité de la somme théologique. Je pense que le Père Philippe s'arrêtera dessus. En tout cas, la découverte de la finalité, je pense qu'il le verra avec vous. Alors, et ayant découvert la fin de mon existence, cette fin elle peut être diverse, hein, ça peut être, pour moi la fin c'est d'accumuler du savoir. Vous voyez, j'aurais vous citer en préambule quelqu'un qui s'appelle Saint Augustin, si je retrouve. Est amor studium quae sapientiae. Autrement dit, amour et étude de la sagesse, voilà la finalité de l'homme. Hein? Pour un frère de Saint-Jean, je trouve que c'est une bonne devise épiscopale. Voyez, est amor studium quae sapientiae. Autrement dit, l'amour et l'étude de la sagesse. Voyez, on a, ça peut être une finalité humaine. Il peut y avoir une autre finalité, c'est avoir des enfants. Pour une mère de famille, ça peut être une finalité. Il peut y avoir une autre finalité, c'est gagner de l'argent. Pour quelqu'un qui n'en a pas, ça peut l'être. Pour quelqu'un qui en a, ça peut aussi l'être d'ailleurs. Vous voyez, il peut y avoir comme finalité tel ou tel bien sensible. Les grands crus du Bordelais. C'est la quête des loisirs. Vous voyez, on a chacun. Et ce qui est important, c'est de voir que quand je parle de finalité, c'est pas ce dont je rêve, mais c'est ce vers quoi mes actes s'orientent. Parce que trop souvent, la finalité, je l'imagine. Je m'imagine ayant comme finalité être intelligent. Et bien, très souvent, c'est dans le domaine du rêve. Et je m'imagine posséder une somme énorme de connaissances. Souvent, c'est dans le domaine du rêve. Parce que dès qu'on passe à l'acte, on se rend compte que vous savez, c'est comme le moteur qui est en train de s'étouffer parce qu'il n'y a plus rien à dire. Mais alors, c'est important de voir que la finalité, c'est ce vers quoi mon acte tend, et non pas ce vers quoi j'espère tendre. Et c'est d'abord quelque chose de premièrement pratique, le sens de la finalité. Et ça, ça demande une certaine lucidité. Quelle est ma finalité concrètement? Alors pour certains, la finalité concrète, et c'est là où on va voir que ça, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense, pour certains, la finalité concrète, ça peut être l'exaltation de soi. Et on est tous d'accord pour dire que c'est pas vraiment ça, mais si on regarde nos actes, on peut se dire, tout compte fait, oui, c'est peut-être ça ma finalité. Vous voyez, la finalité réclame une lucidité. Et cette lucidité, de fait, on l'a très peu. Nous, on est d'accord pour une finalité qui est donnée par l'intelligence, mais dans laquelle on ne va pas du tout. On est d'accord pour une finalité qui est donnée par Dieu, mais dans laquelle il y a rarement une correspondance avec nos actes. Vous voyez, la première saisie de la finalité, c'est dans l'acte. Ce n'est pas un problème d'abord intellectuel. Et ce qui serait bien, c'est se faire une sorte d'examen de conscience existentielle. Alors pour ça, si vous voulez, on installera des divans dans la prairie. On vous pose la question, mais existentiellement, où est-ce que j'en suis? Et quel est ce qui finalise véritablement mon acte? Vous savez, c'est étonnant hein, quand on découvre chez l'autre, parce que c'est très rare de le découvrir chez soi, mais quand on découvre chez l'autre, la différence entre l'intention et la réalité. Les intentions, elles sont super, mais alors super. Le discours, il est super, et puis la vie, on dit, bon Dieu, où est-ce qu'il est, lui? Vous voyez, c'est important de voir, il y a une tension. Alors, je ne voudrais pas que vous restiez dans cette tension. Vous voyez, c'est vraiment vous dire, mais ma finalité, mais c'est ce vers quoi mes actes tendent. Et pas ce vers quoi je pense devoir tendre, mais c'est ce vers quoi mes actes tendent. Ça, c'est, je crois, le point de départ d'un certain réalisme. S'il n'y a pas ce réalisme, il me semble qu'on va gloser sur un problème sûrement très intéressant, mais je ne pense pas que, vitalement, ça nous apporte quelque chose. Vous êtes d'accord là-dessus? Vous me comprenez bien? Hein? Si pour l'examen de conscience vous avez des difficultés, allez voir. Alors, après ça, il y a une finalité qui est un bien surnaturel. Et on va distinguer deux aspects à la béatitude, béatitude naturelle, béatitude surnaturelle. Et on se rendra compte, quand on réfléchit un tout petit peu à ce que représente la béatitude, que naturellement, l'homme ne peut pas atteindre sa béatitude. Pourquoi? Parce que la béatitude réclame de finaliser complètement l'homme. Alors reprenez, hein, c'est la démarche que fait saint Thomas dans la Somme théologique, mais reprenez les différentes expériences de vos béatitudes. Prenons les grands crus bordelais. Bon, eh ben. Ça passe. Alors c'est vrai, ça peut durer un peu, mais si vous voulez, ça passe quand même. Prenez l'exaltation de vous-même, de nous-mêmes. Excusez-moi. Ça aussi, ça passe. Parce que c'est pas un bien qui est capable de finaliser complètement la personne humaine. Et il est important de voir surtout, alors ça ce sera un des points capitaux du magistère, c'est-à-dire qu'au sens fort, on ne peut pas parler de béatitude naturelle. Parce que seul Dieu est capable de combler la personne humaine. Alors, cependant, je pense que chacun des frères a tout de suite pensé à l'intérieur de lui-même, se dire, mais, et que fait-on de la philosophie première qui devient sagesse dans une théologie naturelle et qui, à partir de ce moment-là, va quand même parler d'une béatitude naturelle? Alors ça, c'est un grand débat théologique hein, que l'on voit surtout développé à travers un auteur qui s'appelle Le Père de Lubac. Alors, il est clair, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la philosophie, oui, il y a une philosophie qu'on appelle la philosophie première, et la philosophie première, dans son terme, aboutit à la découverte d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Autrement dit, naturellement, par mon intelligence, je découvre Dieu. Mais je ne le découvre pas d'une façon directe, je le découvre d'une façon indirecte. Et dévoilant son existence, je peux dire, je suis fait pour Dieu. Mais il est important de voir qu'un tel raisonnement a une limite, parce qu'entre le fait que je sois fait pour Dieu naturellement et le fait que Dieu va venir me combler, j'oublie un métaxu, et le métaxu, c'est quoi? C'est l'état dans lequel je suis Autrement dit, je suis distinct de Dieu, j'ai aucune expérience de ce qu'est Dieu, et donc je ne peux attendre cette plénitude que par un don que Dieu fera de lui-même. Donc oui, bon, ça c'est une petite question théologique compliquée, mais il est important de voir que tout ce que je découvre comme finalité n'est rien par rapport à la finalité surnaturelle à laquelle je vais être appelé. Alors, si vous voulez, mon propos, ça ne va pas être de développer cette dimension de finalité philosophique, mais principalement d'insister sur la démarche théologique. Autrement dit, qu'est-ce que le croyant va dire de la béatitude ? Et là, il y a beaucoup de personnes qui sont absentes dans du moins, beaucoup de théologiens sont absents d'une telle question. Il faut savoir que vous ne trouverez quasiment jamais un bouquin qui parle de la béatitude. Alors si, on vous parlera du ciel, on vous parlera du purgatoire, de l'enfer aussi, ça se fait beaucoup. On vous parlera des anges. Ça, alors là, c'est très coté actuellement. Si vous écrivez un bouquin chez les anges, je vous assure, vous pouvez même tirer un grand éditeur. Parce que c'est très coté, ça se vend beaucoup. Vous voyez, donc on vous parlera de tout ce qui se passe après. Mais rarement vous aurez dans une théologie un traité sur la béatitude. Alors, ce que je voudrais avec vous, c'est prendre le point de départ de cette théologie de la béatitude. Et ce point de départ, c'est à travers la révélation. Pour cela, je me permettrai de faire une petite parenthèse sur la révélation. Parce que je ne suis pas sûr qu'on soit tous clairs là-dessus. Et je la fais parce que très souvent, on a du mal à comprendre ce qu'est recevoir une révélation. La preuve en est, hein, c'est la difficulté qu'on a de recevoir le magistère de l'Église. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors, dès quelqu'un a l'autorité et parle, on dit « Oh le grand méchant, il veut nous contraindre ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors on pourrait dire à peu près la même chose de Dieu, sauf que Dieu, comme on n'entend pas très bien ce qu'il dit et comme on ne lit pas ce qu'il dit, donc de toute façon on n'est pas trop gêné, mais alors que quand à travers la presse un représentant du Christ parle, bon, c'est toujours gênant. Alors j'aimerais bien, voyez, vous faire réfléchir sur le fait de la réception de la révélation. Qu'est-ce que ça signifie de recevoir la révélation ? Premièrement, eh bien, c'est la recevoir et non pas la mesurer. Autrement dit, la première attitude, ce n'est pas de déterminer ce que Dieu a dit, mais c'est d'entendre ce qu'il dit. Et ça, c'est déjà important. Être capable d'être attentif à la parole que Dieu me donne. Et cette attention, elle se réalise dans une coopération entre ce que Dieu me dit et ce que je suis. Et cette coopération, elle se fait par mon esprit, par mon intelligence et par mon cœur. Mais tout cela, ça présuppose quelque chose de fondamental, c'est la foi. Et on l'oublie peut-être un peu trop. Vous voyez, souvent, le critère de réception actuellement de tout ce qui est du domaine de la révélation ou la transmission de la révélation par le magistère, on met complètement entre parenthèses le domaine de la foi. Donc on vient avec nos sabots critiques en disant « là je suis d'accord, là je suis pas d'accord, là je suis d'accord, là je suis pas d'accord ». Et puis souvent, comme on est rarement d'accord, ben, tout ça exit au panier. Vous voyez ? Et c'est important de voir que on n'est plus du tout dans une attitude de réception chrétienne. On est dans l'attitude du siècle, mais cette attitude du siècle, elle est tellement présente que ça nous est conaturel. Vous voyez ? Que quelqu'un ose penser différemment de nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un sacrilège. Puis en plus, si cette personne s'appelle Jean-Paul II, n'en parlons pas. Vous voyez, c'est important de voir qu'on a une difficulté énorme à recevoir aujourd'hui la révélation. Et donc, quelle doit être l'attitude de celui qui reçoit la révélation chrétienne ? Ben, cette attitude, c'est d'abord l'attitude de la foi confiante en Dieu. Et donc, d'être capable d'écouter parce que c'est Dieu qui parle. Non pas Dieu qui parle, hein, comme si on branchait un magnétophone, hein. Mais, comme le résume assez bien un théologien contemporain, oui, Dieu parle à travers les hommes auxquels il a donné le charisme d'écrire. Et cet écrit, ben, c'est la révélation que nous avons. Et en même temps, Dieu parle au cœur des saints, Et Dieu parle aussi au cœur du magistère. Vous voyez, et on a à découvrir cette attitude d'accueil et pas simplement de critique. Et aujourd'hui, c'est quasi héroïque, ça. Parce qu'on passe pour un débile profond à partir du moment où on soutient une idée saugrenue de Jean-Paul II. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est les gens nous regardent et nous disent « Mais c'est pas vrai. » Alors pour nous, avec un habit, on se dit « Bon, de toute façon, eux, c'est incurable. » Mais, si vous voulez, c'est quand vous êtes... Quand vous, je suis persuadé que quand vous parlez avec vos amis et ainsi de suite, et vous pensez des choses qui ne sont pas pensables selon le monde d'aujourd'hui, mais bon, vous sortez de Mars. Vous voyez, alors à partir de ce moment-là, on a exactement la même attitude. Faut-il pouvoir découvrir quelle est l'attitude juste face à la parole que Dieu me donne, aussi à travers son ministre particulier, qui est le souverain pontife. Alors, et ça c'est toute l'attitude première d'une démarche théologique. Je m'appuie sur une révélation qui ne m'appartient pas et dont je n'ai pas l'intelligence. Vous voyez, je ne vais pas partir de ma petite expérience en disant voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, comme on pourrait faire en cataloguant certaines choses dans l'Évangile que je crois comprendre et en disant voilà, c'est ça la théologie. Autrement dit, c'est me mettre à l'écoute de Dieu en étant intelligent pour comprendre, et non pas en étant intelligent pour dire « je ne suis pas d'accord ». Mais ça, souvent, ça peut nous scandaliser. Hein. On se dit « comment ça ? Mais notre intelligence va se mettre au service d'eux, on va... c'est impossible, comment ça ? Nous, qui sommes des êtres brillants, on va se mettre au service d'un texte sémitique d'il y a 2000 ou 3000 ans, mais comment on peut faire un truc pareil ? C'est pas possible ». Vous voyez, souvent l'attitude hein, qui nous habite, c'est celle-ci. Alors moi, j'aimerais bien que vous puissiez découvrir que la véritable attitude théologique, c'est l'obéissance de la foi. Mais cette obéissance de la foi, ça ne supprime pas l'intelligence. Autrement dit, ça ne supprime pas l'exercice de notre raison et de comprendre afin de manifester l'intelligibilité de la parole de Dieu. Mais si vous voulez... L'intelligence se met au service de quelque chose qui la dépasse. Et ça, c'est important. Ne croyons pas qu'en fait de la théologie, qu'on a tout compris. Vous savez, on sort d'un sermon, et puis on se dit, oh, le père a parlé de la Trinité. Ah, ça y est, j'ai tout compris. Mais non, on n'a rien compris, et je pense que même le père qui parlait, il ne comprend rien de ce qu'il dit. Vous voyez, c'est important, c'est ça le statut de la théologie. Alors, il faut pas le je dis ça surtout aux frères, il faut pas amplifier ce que je viens de dire, parce que si les gens vous disent, écoutez mon père, on comprend rien de ce que vous dites, vous voyez, il y a peut-être un problème de transmission intelligible. Mais quant à la réalité dont vous parlez, vous ne pouvez pas la saisir pleinement, parce que cette réalité, vous pourrez la saisir pleinement que dans la gloire. Et, mais il est important et fondamental d'avoir cette attitude de l'intelligence qui se met au service de quelque chose qui la dépasse. Et non pas d'une intelligence qui va mesurer. Autrement dit, on va réfléchir sur la Trinité, là c'est la béatitude, et on va prendre tout ce qu'il y a dans l'Écriture, et puis on va dire, voilà, c'est ça la béatitude. Non. Autrement dit, notre attitude, c'est de lire l'Écriture, afin d'essayer de découvrir, d'entreapercevoir la lumière que Dieu nous donne dans cette Écriture, et non pas de la mesurer. Ça, vous avez un très bon sermon. Là, par contre, c'est vraiment un très bon sermon qui a été fait par John Henry Newman, qui était cardinal, qui a fait ça le 2 février. Vous regardez, c'est le sermon du 2 février qui a été fait à Oxford. Il parle justement de ce problème, en tant que la façon dont on reçoit la parole de Dieu. À partir du moment où je reçois la parole de Dieu pour la mesurer, elle n'est plus parole de Dieu. Parce que ce que j'en sors, ben, ce sera moi-même. Vous voyez, c'est une attitude importante. Et en même temps, le deuxième volet de cette réalité, c'est de mettre toutes ses capacités intellectuelles au service de cette parole, mais au service. Et donc, de temps en temps, ben, d'accepter de ne pas comprendre, de temps en temps, d'accepter de marcher un peu à tâtons, sans voir grand-chose. Alors, maintenant, on va... J'espère que l'introduction est à peu près claire. Voilà, terminé. Maintenant, on va passer à l'écriture. Alors, je vais commencer par cette phrase connue de tous, Bereshit bara Elohim. C'est une phrase qu'on connaît tous, parce que au moins ceux qui ne savent pas l'hébreu savent au moins ces trois mots. Et je vais m'arrêter sur l'expression Bereshit. C'est les trois premiers mots de l'écriture, hein, pardon, excusez-moi, au commencement, Dieu créa le bon. Voilà. L'expression Bereshit, c'est-à-dire le commencement, qui est le premier mot de l'écriture, qui nous parle du commencement de la création, a une notion et a une très importante. Autrement dit, dans ce commencement, il y a un projet, il y a une finalité. Vous voyez, c'est pas simplement quelque chose qui naît comme ça, point la ligne. Vous voyez, la création de Dieu, elle est finalisée. Et la première chose que je découvre à travers le livre de la Genèse, c'est que cette finalité, c'est que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et que l'homme est appelé à vivre avec Dieu. Cependant, l'homme aussi est appelé à une certaine autonomie, puisque c'est à lui qu'est confiée la création. Et quand vous lisez de près le livre de la Genèse, vous vous rendez compte que ça inaugure l'ensemble de la révélation. Et quand vous faites, c'est ce que fait le père Philippe, quand vous faites le parallèle entre les 11 premiers chapitres de la Genèse et le terme de la révélation qui est la révélation johannique, et il y a un parallèle très important. Et vous voyez cette structure du livre de la Genèse, ben, c'est la structure qu'on retrouvera constamment dans toute l'histoire sainte et qu'on retrouvera dans l'histoire de l'Église. Autrement dit, quelle est-elle ? C'est Dieu est source de toute chose, c'est lui qui fait. Mais ce qu'il fait, c'est toujours finalisé. Cette finalité, l'homme, il ne fait qu'une seule chose, c'est de la casser. Et que l'histoire humaine, c'est en fin de compte, c'est Dieu qui vient repêcher l'homme afin de lui donner une finalité. Et alors, vous voyez, cela, cette découverte de la finalité hein, que l'on voit, alors si on regarde le texte de la Genèse vraiment de près, et c'est l'homme à qui est confié l'univers. La création, l'homme est invité à l'achever. Et puis, tout d'un coup, accident de parcours, le récit de la chute. Et le récit de la chute nous enseigne que la finalité présente dans la création n'existe plus. Vous voyez les conséquences. Alors, pour que vous compreniez, pour que vous puissiez le comprendre, hein, il faudrait lire le regard du livre de la sagesse sur la création. Il y a des très très beaux passages, hein, je ne les ai pas notés ici, parce que pour une fois je ne vous abreuverai pas de référence. Je ne vous ai pas noté ce passage, mais lisez tout le livre de la sagesse d'ailleurs, ça vous ferait... Non, je ne peux pas me permettre, mais c'est un livre important quand même. Et la relecture de la création par le livre de la sagesse. Et cette expression, Dieu a créé l'homme incorruptible. C'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Donc on voit bien qu'il y a une finalité qui est brisée au point de vue existentiel pour l'homme. Cette finalité, c'est d'être tendu vers Dieu. Cette finalité, c'est d'être tendu vers son frère. Cette finalité, c'est de participer à l'œuvre créatrice de Dieu. Et tout ça, c'est complètement brisé. Alors, c'est les conséquences immédiates hein, de la chute, c'est la peur de Dieu. Donc, autrement dit, celui qui me finalise, j'en ai peur. Donc, vous voyez, il y a quand même un problème, ça. Parce que, vous voyez, Dieu est censé me finaliser, j'en ai peur. L'homicide, le fratricide, plutôt. Autrement dit, celui avec qui je suis censé vivre correctement, je le tue parce qu'il m'énerve. Ou parce que je le jalouse. Et il y a quand même une finalité qui est un peu brisée, quand même. Utiliser l'univers, l'homme ne le fait plus dans l'harmonie. Tu travailleras à la sueur de ton front. Oui, il y a quand même des choses, on sent bien qu'il y a une certaine brisure. Et souvent, c'est à partir de cette brisure que le monde va regarder sa propre finalité. Et donc souvent, sa finalité, c'est de sortir de ces brisures. Donc sa finalité, c'est de sortir de Dieu, mais sans qu'on en ait peur. Là, aujourd'hui, on y est complètement arrivé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais complètement arrivé. Sortir du travail à la sueur de son front, on essaie d'y arriver. On y arrivera peut-être. quoique ça prend du temps quand même de travailler. Vous voyez, toutes ces choses qui sont pour nous le modèle d'une finalité à atteindre, c'est-à-dire la négation de l'état dans lequel nous sommes. Et il est important de comprendre que la finalité originelle que Dieu nous donne, elle demeure en nous. Cependant, nous n'avons pas le moyen d'y accéder. Ça, c'est tout l'enseignement de la chute. Vous voyez, autrement dit, là, je parlerai d'une finalité qui est préternaturelle. Autrement dit, qui est avant la chute. Et cette finalité, elle est inscrite dans la nature humaine. Tendre vers Dieu, être capable de vivre avec son frère, et être capable de faire en sorte que l'on achève ce que Dieu nous a confié. Ça, c'est inscrit au plus intime de nous-mêmes. Mais la chute nous enseigne que c'est plus possible. Et c'est là toute l'originalité, du moins, pardon, c'est pas de l'originalité parce qu'on s'en serait passé, mais c'est là toute la spécificité de la béatitude. C'est de voir que cette première béatitude, elle va souvent se contredire avec une seconde béatitude qui est la béatitude de l'alliance. Vous voyez, par l'alliance, l'homme est invité à rentrer dans une seconde béatitude. Et cette béatitude, c'est de rentrer dans une nouvelle intimité avec Dieu. Cette intimité qui prendra son expression la plus parfaite à travers la promesse de la vie éternelle. Et constamment se chevauchent ces... Dieu pour que l'homme découvre une nouvelle finalité. Et cette nouvelle finalité, elle est très simple, c'est de vivre un enfant de Dieu. Ça, c'est tout ce que nous enseigne le Nouveau Testament. Et on voit ça dans toute l'histoire sainte. On voit ça aussi avec les apôtres. Vous voyez, un texte que l'on a entendu ces derniers jours, que l'on réentendra, c'est un texte après la résurrection. Les disciples pose la question au Seigneur, mais quand est-ce que tu viendras rétablir la royauté en Israël? Autrement dit, les disciples sont bien conscients que le Seigneur il est venu rétablir les choses. Alors qu'il n'est pas du tout venu pour ça. Il est venu pour donner la vie éternelle, et non pas pour rétablir les choses. Et constamment, c'est le dilemme entre le désir de l'homme et le désir de Dieu. D'un côté, le désir de l'homme, c'est de retrouver son intégrité originelle, et par là, penser pouvoir atteindre sa béatitude. Et le désir de Dieu, c'est de lui donner cette béatitude, cette finalité divine. Et là, constamment, il y a conflit dans toute l'histoire sainte. Alors, ce dépassement, il s'inscrit dans une histoire. Et dans cette histoire, Dieu va être très pédagogue. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez, la première chose que Dieu vient faire, c'est d'entendre le cri de son peuple, de répondre à l'attente d'Israël, et d'une certaine façon, de répondre concrètement à son attente, à travers une bénédiction temporelle. Vous voyez, c'est le Dieu de la victoire. Pensez le cantique de Moïse après la traversée de la mer Rouge. Pas celui que vous avez vu à la télé si vous avez regardé le feuilleton. Non, lisez-le dans l'écriture, vous verrez. C'est autre chose. Non, je dis ça parce que dernièrement, c'est passé, ils ont fait un film dessus, alors, ou je ne sais pas quoi, mais bon. Et Dieu donne à manger, la manne. Dieu vient donner une certaine félicité. Cette félicité, c'est la fécondité, c'est la richesse. Vous voyez, ce sont des signes extérieurs où Dieu fait découvrir à son peuple un bien qui est un bien terrestre. Mais il y a un livre charnière qui s'appelle l'Ecclésiastique. Vous connaissez tous, vanité des vanités, tout est vanité. Autrement dit, tout ça, à quoi ça sert? À quoi ça sert, puisqu'on va croupir sous la terre? Donc ça sert à rien. Vous voyez, c'est une sorte de, de... Si un jour vous n'avez pas le moral, lisez ça, vous verrez, ça, ça augmente la descente. Comme ça, ça accélère aussi la remontée, si vous voulez. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de vague à l'âme de l'Ecclésiaste qui dit, mais tout ça, mais qu'est-ce que c'est? On voit un petit peu aussi ça chez saint Paul. Quand il dit, mais saint Paul s'est renversé. Lui, il dit, mais qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? L'angoisse, la tribulation, les épreuves, rien de tout ça. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'amour du Christ? Vous voyez, lui, c'est un peu l'inverse. Lui, c'est, il a pas tellement de morale. Il se dit, oh, c'est vraiment la catastrophe. Et donc, tous les biens terrestres, ce sont des biens qui passent. Et vous avez, à partir de là, un grand mouvement qu'on appelle le mouvement prophétique, qui annonce ce qu'est le bonheur de l'homme. Et là, cette annonce, elle est faite d'une façon tout autre. Ce n'est pas du tout une annonce... où vous avez, ne vous inquiétez pas, Dieu viendra vous bénir, Dieu viendra avec vous, il vous donnera à manger, ainsi de suite. Non, c'est une annonce eschatologique. Autrement dit, c'est une annonce qui porte sur le futur, en disant que l'homme est invité à vivre avec Dieu. Autrement dit, l'homme n'est pas simplement invité à recevoir des bienfaits de Dieu pour qu'il soit heureux, mais il y a un certain déplacement qui est réalisé, c'est que l'homme est invité à découvrir son bonheur en Dieu, et non plus dans des biens que Dieu lui donne. Et ça, c'est important à découvrir. Job nous dira que notre bonheur consiste dans la communion. Oui, le résumé de Job, on pourrait le faire comme ça, le livre de Job, je pense que vous connaissez. C'est le bonheur de l'homme consiste dans la communion avec Dieu, au-delà des échecs et des souffrances. Et ce n'est pas l'échec et la souffrance qui sont signes de non-communion avec Dieu. Ou ce n'est pas la réussite et le bien-être qui est signe de communion avec Dieu, et surtout qui est signe de bonheur humain. Alors, voyez, si j'ai retrouvé la référence pour le livre de la sagesse, lisez le chapitre 2, au moins le chapitre 2 du livre de la sagesse. Puis vous allez voir le verset 23. Il me reste combien de temps là ? 10 minutes ? J'ai commencé à quelle heure ? Alors, et toute cette révélation de l'Ancien Testament culmine dans la révélation de la personne du Christ. Et cette personne du Christ inaugure son enseignement à travers l'enseignement des béatitudes. Et là, c'est quelque chose de très important. Parce que, voyez, pour le Christ, être bien heureux n'est pas d'abord un état. C'est le fruit d'un acte. C'est le résultat, entre guillemets, d'une conduite de vie. Et cette conduite de vie, elle a comme conséquence d'ouvrir l'homme à une réalité qui est le royaume de Dieu. Mais dans l'Évangile, vous avez trois composants importants. C'est de voir que la béatitude de l'homme, elle sera atteinte par lui dans son acte. Autrement dit, c'est le lieu d'une conduite de vie. Et la béatitude de l'homme, elle l'ouvre vers un futur qui est le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, chose étonnante, il est déjà là. Vous voyez, on avait déjà l'annonce du royaume dans le mouvement prophétique. Mais à travers la personne du Christ, le royaume est déjà là. Donc oui, d'un côté, vous avez l'invitation à découvrir la béatitude dans vos propres actes, avec une ouverture vers un futur déjà présent, qu'est le royaume de Dieu. Autrement dit, quand le Christ parle de béatitude, il ne parle pas simplement d'état présent, il parle aussi d'état futur. Il ne parle pas simplement d'état futur, mais il parle aussi d'état présent. Et c'est toute la complexité de la béatitude dans l'Évangile. Et d'où les interprétations souvent fausses. Je prendrai la béatitude qui a été interprétée la plus faussement du monde, c'est la béatitude des pauvres. Vous avez des théologiens qui... Bon, plus de notre époque, bien sûr, parce que là, maintenant, on... Bon. Qui interprétaient cette béatitude. Bienheureux les pauvres. Mais écoutez, vous êtes pauvres, vous plaignez pas, moi je suis riche. Bon, ce sera plus dur pour moi, vous plaignez pas, restez pauvres, comme ça, plus tard, vous aurez le royaume. On voit la limite d'une telle interprétation, quand même. Vous voyez, pourquoi ? Parce que, trop souvent, on a compris les béatitudes comme quelque chose qui va venir, uniquement. Et c'est pas simplement quelque chose qui va venir. C'est quelque chose qui est actuel. Il ne s'agit pas de vivre de telle façon pour qu'après nous soyons bienheureux dans notre béatitude. Mais s'agit-il en vivant de découvrir déjà sa propre béatitude ? Et ça, c'est le réalisme des béatitudes évangéliques. La béatitude évangélique n'est pas simplement quelque chose qui me rassure, parce qu'aujourd'hui c'est la catastrophe, c'est vraiment épouvantable, ainsi de suite, donc je me rassure en disant, plus tard ce sera mieux. Mais non, c'est pas ça la béatitude. Parce que justement, la béatitude, c'est pas le fait que ce soit mieux, c'est le fait que ce soit tout autre. Vous voyez, la béatitude n'est pas le fait que plus tard, quand je serai au ciel, ça ira mieux. Mais non, vous verrez, ce sera pire. Parce que ce sera tout autre. La question du ciel n'est pas je vais pas souffrir, il n'y aura pas de maladie. Ça, c'est imaginatif, c'est pas une vraie question, ça. La question du ciel, c'est je serai complètement en Dieu. Vous voyez, la béatitude, elle ne se prend pas à partir de la négation de l'état présent. Trop souvent, on aurait pu penser la béatitude de cette façon. Tu aurais dit, vous voyez, c'est la béatitude, c'est génial, c'est la fuite de la vie. Non, c'est la plénitude de la vie. Alors, on voit ce que ça voudrait dire, la fuite de la vie, c'est je suis malade, je suis pas grand, je suis pas beau, je suis pas intelligent. Oh là là, mais c'est pas grave, au ciel, tout ça se sera transformé. Eh ben non, il n'y aura rien de transformé, parce que c'est pas la question. Vous voyez, nous on voudrait prendre comme repère de la béatitude l'extra-qualitatif de, soi-disant, notre vie humaine. Eh bien, l'extra-qualitatif de notre vie humaine, le Seigneur nous dit, c'est de vivre en enfant de Dieu. Eh bien, ça, j'en ai pas l'expérience psychologique. J'en ai pas du tout l'expérience psychologique. J'en ai pas l'expérience dans mes actes concrets. Vous voyez, faut-il comprendre que la béatitude évangélique, elle réclame d'être vécue maintenant. Alors c'est vrai, vous pourriez me dire, mais saint Paul considère la gloire comme une libération. C'est vrai que c'est une libération, mais je ne peux pas regarder que la libération. Parce que si je regarde que la libération, ma vie chrétienne, en tout cas la vie des béatitudes évangéliques, ne sera qu'une attente de cette libération. Alors que c'est beaucoup plus, c'est déjà la fécondité de la vie divine. Vous voyez, et l'exercice de la vie chrétienne, dans la lumière des béatitudes, c'est celui qui découvre que le royaume, il s'installe en lui. Et pas simplement celui qui attend que le royaume vienne. Et c'est tout le problème de la justification et du rapport au devenir de la vie humaine. Vous voyez, je ne suis pas justifié dans mon terme, je le suis déjà maintenant. Je ne suis pas dans l'attente de, c'est déjà une réalité maintenant. Et l'effet de la passion du Christ, elle est actuelle pour chacun d'entre nous. Elle ne sera pas quand nous serons morts. Vous voyez ? Et trop souvent, nous avons tendance à penser les choses dans cette lumière et de cette manière. Alors, faut-il avoir ce minimum de compréhension et de lecture de l'Évangile pour y découvrir une actualité et pas simplement une promesse à venir ? Alors, cette actualité, quelle est-elle ? Eh bien, c'est un comportement moral dans lequel le Seigneur nous invite à vivre. Mais comportement moral particulier, parce que nous n'en avons pas la mesure. C'est Dieu qui en a la propre mesure. Nous n'en avons pas la capacité, c'est Dieu qui en a la propre capacité. Donc vous voyez, nous sommes appelés à vivre quelque chose qui est absolument impossible pour nous. C'est extraordinaire ça. Et cela nous fait comprendre que, vous voyez, les béatitudes évangéliques, c'est la vie surnaturelle, c'est pas la vie humaine. Vous voyez, je sais pas, prenez la dernière. Bienheureux si vous êtes insulté au nom du Christ. Bon, humainement, je pense pas que ce soit le summum à rechercher, même dans l'ordre de l'agir humain. Sauf en cas de certaines maladies. Si certains sont psychologues ici, ils pourront me dire le titre de cette maladie, s'il s'appelle une psychose ou je ne sais pas quoi. Bon, en tout cas, il est clair que l'exigence évangélique des béatitudes, ce n'est pas l'exercice de mon humanité. Je dis, c'est l'exercice du membre du royaume. Et tout ça réclame toute la thématique de la nouvelle naissance. Pour moi, vivre des béatitudes, c'est vivre la nouvelle naissance que la croix du Christ vient m'apporter. Cette régénération dans le Christ. Autrement dit, l'exercice moral que le Christ me demande, aussi bien quant à la disposition que quant à sa fin, sont inhumains. Non pas inhumains au sens de contre l'humain, mais ils sont suprahumains, c'est-à-dire sont surnaturels. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que mon agir est revêtu d'une particularité qui est cette particularité des enfants de Dieu. Ma capacité humaine ne peut pas vivre des béatitudes. Pourquoi ? Parce que mon cœur humain, il ne peut pas aimer comme Dieu aime. Mon cœur humain, il ne peut pas vivre comme Dieu vit. Pas possible, ça. Il n'en a pas la capacité. Et en même temps, l'homme, dans son agir, est appelé à une nouvelle finalité. Cette finalité, c'est vivre comme Dieu. D'où la nécessité, ça c'est toute la nécessité de comprendre que le message moral de l'évangile, c'est un message qui réclame de chacun des auditeurs de se revêtir du don de Dieu qu'est la grâce. Et je ne peux pas humainement vivre de la morale évangélique. Je ne peux pas humainement suivre le chemin des béatitudes. Alors, nous allons arrêter là. Je vous demande de réfléchir, puisque vous avez le temps de la prière, du moins pas de réfléchir, de prier. Oui, vous avez le temps de la prière. Réfléchissez 3 minutes, parce que je reviendrai dessus rapidement, sur ce que c'est que l'agir du chrétien, tel que l'Écriture nous en parle. Il y aura des carrefours, c'est-à-dire, c'est des choses très simples, vous allez vous retrouver autour d'un frère, pour ceux qui le désirent, mais je crois que ce serait bien que tout le monde puisse le faire, afin de réfléchir à tout ce qui est présupposé dans ce que je viens de vous dire, et puis tout ce que vous ne comprenez pas, pour pouvoir un peu ne pas rester en disant « c'est très beau, mais j'ai rien compris ». Voilà, et donc ce sera à 15h30.